Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Se rendre chez le médecin quand tout va apparemment bien n'est pas une démarche évidente pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est un atout de faire régulièrement le point sur son état physique. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé ou check-up médical. Dans la pratique, de quoi s'agit-il ? Pourquoi faire un bilan de santé ? Quels en sont les bénéfices ?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Notre invité, Sékou Cheikh Bomba, répondra à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Sékou Cheikh Bomba est le PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec Sékou Cheikh Bomba. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Merci d'être notre invité pour cette émission qui est consacrée au check-up médical ou au bilan de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bilan médical ?
Un bilan de santé est un acte préventif désignant l'ensemble des examens médicaux subis par un individu.
À quoi sert-il ?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Il y a aussi la possibilité, au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Donc les bénéfices d'un bilan de santé, c'est au niveau de la prévention d'une maladie?
Je dirais oui. Ça, c'est la plus importante situation qu'on peut tirer du bilan de santé, c'est la prévention. Mais il y a la constatation aussi. Parce que quelqu'un peut être bien portant et toujours souriant, mais il traîne une maladie. Il n'a pas encore été complètement déclenché, mais il a déjà la maladie. Et à ce niveau-là, avec un bilan de santé, on peut avoir des informations. Le corps humain change. Chaque seconde que nous prenons, notre corps s'adapte à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, notre manière de nous nourrir, l'alimentation et tout impacte sur le corps humain.
À cause de tout ça, le corps, il a besoin d'un check-up médical ou d'un bilan de santé.
On pourra considérer ça comme une machine. S'il n'y a pas l'entretien de cette machine, on ne pourra pas en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le bilan de santé est un diagnostic en réalité du corps humain. Il y a assez d'avantages. Le corps suivi des évolutions, transformations. Il y a un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle de poids, de tension, de vue, audition, de réflexe. Il pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'importance dans ce bilan de santé.
Quels sont les examens qui sont recommandés ou pratiqués pendant le bilan de santé?
Il y a l'examen biologique, normalement une prise de sang, l'analyse de l'urine. Il y a des tests visuels et auditifs, l'électrocardiogramme que les Américains appellent la plupart du temps EKG, un examen bucco-dentaire.
Pendant un bilan de santé, y a-t-il des examens spécifiques suivant certaines catégories de personnes?
Il y a la possibilité pour les patients qui sont déjà en âge, plus de 65 ans, 70 ans, la possibilité d'identification de l'Alzheimer et différentes maladies. Pour des fumeurs, il y a la radiographie pulmonaire. Pour les femmes, il y a la gynécologie, les plus de examens.
Nous avons un auditeur, Gakdos Kebabe, depuis N'Djamena au Tchad. Il demande quel est l'âge recommandé pour commencer à faire son bilan de santé.
Je dirais un jour.
Donc, dès qu'on est quoi?
Dès qu'on est déjà, ça c'est déjà fait, mais après une semaine, tout individu peut chercher en fait à avoir un bilan de santé. Et c'est très très important. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment recommandé. Et je dirais une fréquence annuelle serait la meilleure approche. Certaines personnes que je connais font à une fréquence biannuelle, c'est-à-dire deux fois par an.
Donc, cela signifie que le bilan de santé s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
Tout le monde, toute la population. population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois quand on se sent mal? Ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher.
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais si nous avons pensé à cette solution, voilà pourquoi au sein des SCB System, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo, en fait, permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. Nous allons like, provide des services.
Pour fournir les services.
Yes, merci, yes, fournir les services. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses à juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir.
Yes.
Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non. Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Yes, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Pour Dieu, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas en fait fait...
Conduit l'étude.
Conduit l'étude sur l'entièreté de l'Afrique. Vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste checker notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
Identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque, que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot, mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voire qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, se dire, oh, mais si je suis bien important, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne avant des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permet pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus. Combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved. Nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans le pays développé, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante et il ne sera pas à mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an, même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheikh.
C'est avec un grand plaisir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre discussion avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un aperçu des progrès réalisés dans la lutte contre certaines maladies en Afrique. L'épidémie d'Ebola dans une zone de la RDC est enfin terminée, mais une nouvelle flambée dans le pays s'avère très préoccupante. Ensuite, la poliomyélite n'est plus endémique au Nigeria, selon l'OMS. Nous avons recueilli vos réactions à Abuja. Enfin, la directrice de l'ONU-SIDA partage certaines avancées dans la lutte contre le VIH-SIDA sur le continent africain. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La pandémie de COVID-19 continue de se répandre dans le monde, y compris en Afrique, où le nombre d'infections est en hausse. Alors que les autorités sanitaires s'efforcent de contenir la propagation du nouveau coronavirus sur le continent africain, elles notent cependant des progrès dans la lutte contre certaines maladies. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le mois dernier la fin de la 10e épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. L'épidémie qui a duré près de 2 ans est la 2e vague la plus grave depuis la découverte du virus en 1976. Le point avec Salwa Jafari.
Depuis le 1er juin, la 11e épidémie de fièvre hémorragique Ebola se répand dans la région de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Alors qu'elle avait déjà subi 54 cas et 33 décès en mai-juillet 2018, la ville de Mbandaka, capitale de la province, est de nouveau touchée. Avec un bilan qui s'élève dimanche 19 juillet à 58 cas pour 22 décès, cette épidémie est plus importante que la précédente. Pourtant, il y a à peine quelques semaines...
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Déclarée le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2277 personnes. Le ministre parle de l'épidémie la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Cette annonce est certes un soulagement pour les Congolais, elle est aussi pour toutes les organisations internationales qui ont investi beaucoup d'efforts et de ressources dans la lutte contre la maladie.
Ce n'était pas facile et parfois cela semblait une mission impossible. Mettre fin à cette épidémie d'Ebola est un signe d'espoir pour la région et pour le monde. Avec la solidarité et la science et le courage et l'engagement, même les épidémies les plus difficiles peuvent être éradiquées.
Malgré les vaccins et les traitements qui ont considérablement augmenté les taux de survie lorsqu'ils sont administrés tôt, l'épidémie s'était poursuivie alors que les premiers intervenants ont eu du mal à accéder au point chaud du virus dans les régions frontalières de l'est du Congo. À l'heure où Ebola disparaît dans l'est, la nouvelle flambée dans la ville de Mbandaka inquiète, même si les tests génétiques ont révélé que les deux épidémies n'étaient pas liées.
L'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, la 11e de la RDC, s'est étendue déjà à plus de 5 zones sanitaires, suscitant une profonde inquiétude chez les experts. Notons que plus de 12 000 personnes ont été vaccinées contre la maladie virale en 6 semaines. Comme nous l'avons mentionné, une nouvelle épidémie d'Ebola a fait surface le 1er juin dans la ville de Mbandaka en RDC. Selon vous, que devraient faire les autorités sanitaires pour aboutir à de meilleurs résultats? Voici vos réactions sur Facebook. Victoire Kimmal dit « Je crois que les autorités sanitaires de la RD Congo doivent sensibiliser sans cesse les habitants et surtout les zones touchées. Il faut véhiculer le message dans les zones les plus reculées. » Vincent Sinamoula qui écrit « Ils ont tout fait malgré la gravité de l'Ebola. Prévenir vaut mieux que guérir. » Et enfin, Alphonse Mbouakou dit « Le vaccin anti-Ebola fut homologué par l'OMS. S'il y a un vaccin, pourquoi ne pas l'inoculer sur tous les Congolais pour les immuniser tous ?» La poliomyélite n'est plus endémique au Nigeria, selon l'Organisation mondiale de la santé. La maladie est désormais endémique dans seulement deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan, ce qui rapproche le monde d'un pas vers la fin de la polio. La polio est une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. Le virus se propage d'une personne à une autre, principalement par la voie fécale, orale ou parfois par l'eau ou les aliments contaminés. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Il faut au moins 3 ans sans nouvelle infection pour qu'un pays soit déclaré indemne de poliomyélite. En 2012, le Nigeria représentait plus de la moitié de tous les cas de polio dans le monde, selon l'OMS, affirmant que ce pays ouest-africain a fait des progrès remarquables contre la polio. Néanmoins, une surveillance continue est nécessaire pour protéger ses acquis et s'assurer que la polio ne revient pas dans le pays. Nous nous sommes rendus à Abuja au Nigeria où nous avons recueilli quelques réactions concernant la déclaration de la fin de la poliomyélite au Nigeria. Regardez.
Pour moi, je ne crois pas qu'il n'y ait pas de poliomyélite. Je pense que la maladie existe, mais le gouvernement a fait de son mieux. Parce qu'au moins, j'ai vu comment les gens donnent aux enfants des médicaments contre la polio. Ils ont donc essayé, ce n'est pas comme avant. Ce gouvernement a tenté de lutter contre la polio.
Éradiquer polio forever, c'est impossible.
Éradiquer la poliomyélite pour toujours, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la corruption existe dès le départ. Même si le matériel pour l'éradication est disponible, ils le diviseront d'un endroit à un autre et ce sera la fin. Puis, le lendemain, ils diront que nous voulons éradiquer la polio.
Ok, on veut éradiquer la polio.
Oui, les traitements ont eu lieu, mais cela n'a pas atteint tous les patients, à mon avis. C'est ce que je pense.
Le Burundi a lancé un programme de dépistage de masse de COVID-19 dans la capitale burundaise et dans les provinces pour une durée initiale de 3 mois. Yakuba Ouedraogo raconte.
C'est un revirement majeur pour une nation dont l'ancien président Pierre Nkurunziza, subitement décédé le mois dernier, affirmait que Dieu a épargné son pays de la pandémie. Après avoir qualifié le coronavirus de plus grand ennemi du pays, le nouveau président Évariste Ndayishimiye a invité les Burundais à se faire dépister. Visiblement, les populations n'attendaient que cet appel, comme ici à Kamenge, à un jet de pierre de Bujumbura.
Je suis venu ici parce que j'ai entendu l'appel du président à la radio, c'est une bonne chose, c'est pourquoi je suis venu ici.
Je suis venu parce que je voulais connaître l'état de ma santé pour voir si j'ai ce virus, car on en parle trop ici au Burundi.
Une volonté motivée par la gratuité des tests de coronavirus, tout comme le traitement, comme l'a promis le président Ndayishimiye.
Nous avions tablé sur 250 personnes par jour au niveau des trois communes, mais
À 14 heures, vous avez constaté que nous avons déjà prélevé plus de 479 échantillons.
Pour le moment, le Burundi ne dispose que d'un seul centre de test. Le président Ndayishimiye a promis de multiplier les centres et les campagnes de dépistage dans tout le pays. En attendant, les médecins se contentent de ce qu'ils ont.
Nous avons tout le matériel nécessaire à la fois pour tester et enregistrer les gens. Et les mesures préventives ont été bien préparées, comme vous pouvez le voir sur la disposition des chaises, qui respectent la distanciation sociale afin que les gens ne se contaminent pas ici.
Officiellement, le pays n'a signalé que 170 cas et un décès en deux mois. Un responsable du ministère de la Santé a déclaré à l'AFP que le revirement intervient après que la Banque mondiale a fait don de 5 millions de dollars le mois dernier pour aider le Burundi à lutter contre le coronavirus.
Un nouveau rapport de l'ONU-SIDA, l'Agence des Nations Unies contre le SIDA, montre des progrès remarquables mais inégaux dans la lutte contre le VIH-SIDA, notamment dans des domaines tels que l'augmentation de l'accès aux traitements antirétroviraux. Je me suis entretenue avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, qui a fourni des détails sur les progrès enregistrés en Afrique.
Lorsque j'ai rejoint l'organisation à la fin de l'année dernière, nous avions en fait du mal à atteindre nos objectifs de 2020 dans le monde pour le VIH, mais nous nous débattions. Nous pourrions voir que lorsque nous atteignerons le milieu de l'année et que nous publierons notre rapport annuel, le constat serait que nous sommes hors cible. Et en effet, nous le sommes. Mais la situation du COVID-19 menace de nous faire complètement perdre le cap. Notre rapport est sorti il y a une semaine et nous l'avons qualifié de positif pour l'instant, mais il a montré d'énormes progrès sur 10 ans pour réduire les nouvelles infections, mettre les personnes sous traitement, voire réduire les décès. Mais cela a montré également que ce succès n'est pas partagé à travers le monde. Et par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre des objectifs mondiaux, car de nombreuses autres parties ne se déplacent pas assez rapidement. La bonne nouvelle est que l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par le VIH, mais elle a fait les progrès les plus rapides. Par exemple, les chiffres dans le monde ont diminué en 10 ans. La moyenne mondiale est de 23%, mais l'Afrique a réussi à la réduire de 38%. L'Afrique du Sud, à elle seule, le pays le plus touché, a perdu 53%. Un petit pays comme l'Afrique du Sud a fait d'énormes progrès pour mettre les patients et les maintenir sous traitement. Il a atteint ses objectifs que nous avons appelés 90 et les déplacer à 95. Donc s'il peut le faire, pourquoi pas le reste du monde? Ensuite, nous avons vu à travers ces résultats que de nouvelles infections sont même en augmentation de 72% dans certaines régions comme l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. La même chose avec l'Asie et l'Amérique latine. Le grand progrès est ici en Afrique et nous devons comprendre que cela est dû à l'engagement politique, à la mise à disposition des ressources. Et pour cela, nous devons remercier les partenaires au développement, en particulier les États-Unis, l'Europe et le Fonds mondial. Il s'agit également de donner aux communautés les moyens d'être au centre pour lutter pour leur vie. Il s'agit de respecter les droits de l'homme, donc de se concentrer sur les résultats.
La fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. We'll be right back.